Chapitre 32 La bataille. Tandis que vous pouvez encore, avec votre capitaine, nous abandonner et gagner le village le plus proche afin de demander aux autorités russes de vous aider à gagner un port de Sakhalin où se trouve un consul américain. Réfléchissez donc, vous. Mais nous ne sommes pas des putois, capitaine, interrompit le gros Jim. On est prêts, répétèrent les trois autres. Au diable les Russes, on prendra le schooner comme on voudra. Il n'y avait pas à insister. Fernaud s'en garda bien. Je connaissais d'avance votre réponse, mes amis, dit-il. Mais si j'ai ainsi parlé, c'est parce que j'estimais que je devais le faire. Avec des hommes comme vous, on est sûr de réussir. Les quelques bribes de biscuits trempés d'eau salée restant encore furent partagées et l'on attendit. Dès la nuit venue, les derniers préparatifs furent terminés. Watson et ses marins étaient armés de leurs couteaux. Fernaud possédait un poignard, et c'était tout. Car les naufragés avaient perdu leur revolver, dont les cartouches d'ailleurs eussent été inutilisables par suite de leur immersion prolongée dans l'eau de mer. À 9 heures du soir, Fernaud, qui par un accord tacite avait pris le commandement de l'expédition, jugea que le moment du départ était arrivé. Sans mot dire, il serra la main à Francis Drake, puis à sa fille. « Monsieur Fernaud, souffla Margaret d'une voix à peine intelligible, pensez-vous que je vais être bien inquiète, n'est-ce pas ?» Le Canadien sentit sa gorge se serrer. Peut-être à ce moment voulut-il répondre, avouer ce qu'il pensait depuis des semaines, mais il eut peur de n'être pas maître de son émotion. « Merci, Miss, dit-il simplement, mais ne craignez rien, nous réussirons, à bientôt. » Sa main serra un peu plus fort celle de la jeune fille et ce fut tout. « Go on !» ordonna Fernaud en rejoignant ses compagnons. Les 6 hommes, en silence, se dirigèrent vers le sentier qui reliait le sommet de la falaise à la plage occupant le fond de la baie de Sourbinsk. Ils atteignirent bientôt et purent voir que le lynx n'avait pas bougé. Son ombre noire se dessinait sur le fond sombre de la baie. Pas une lumière ne s'y voyait, Stein devant avoir de bonnes raisons pour ne pas signaler sa présence. En file indienne, Fernaud et ses compagnons descendirent vers la grève. Ils y arrivèrent peu après et, dissimulés derrière un bloc de basalte éboulé de la falaise, se concertèrent une dernière fois. Il fut convenu que Fernaud, avec 2 hommes, grimperait à bord du schooner en utilisant la chaîne de l'ancre, et pendant ce temps, le capitaine Watson et les 2 autres marins se hisserait à l'arrière du lynx en escaladant le gouvernail et en s'aidant des chaînes de sûreté qui le maintenaient. Fernaud et ses 2 hommes devaient aussitôt envahir le poste d'équipage situé sous le gaillard et mettre hors de combat les bandits qu'ils y trouveraient, cependant que Watson et ses marins pénétreraient dans les cabines des officiers et en finiraient avec Stein et consorts. Pas de quartier, pas de tractation. Il fallait aboutir le plus vite possible, par tous les moyens, les plus rapides étant les meilleurs. Fernaud donna l'exemple. En quelques pas rapides, il perdit pied et, tirant sa coupe, fendit l'eau calme dans la direction du schooner. Peu à peu, ils se rapprochèrent du schooner. La marée descendante les portait et les faisait dériver vers le petit navire. Bientôt, ils n'en furent plus qu'à une 50aine de mètres. Conformément aux instructions de Fernaud, les nageurs ralentirent leurs mouvements pour ne pas attirer l'attention. Ils se divisèrent en 2 groupes de chacun 3 hommes, dont l'un, celui de Fernaud, se dirigea vers l'avant du schooner, tandis que celui de Watson voguait vers l'arrière. Fernaud et ses 2 hommes atteignirent la chaîne de l'ancre sans avoir été vus. S'y cramponnèrent pour reprendre haleine. Mais Fernaud, craignant que ses compagnons, dont il entendait claquer les mâchoires, fut saisi par le froid, leur ordonna à voix basse de le suivre. Le Canadien, malgré sa force et son agilité, se hissa difficilement le long de la chaîne de fer. Le froid avait engourdi et raidi ses membres. Ses mains pouvaient à peine se fermer pour saisir les maillons que recouvrait par endroits une mince couche de glace. Après 10 minutes d'efforts épuisants, il atteignit l'écubier, le tube de fonte dans lequel passe la chaîne. Il était trop étroit et de beaucoup pour que le Canadien pût y passer. Fernau vit, à environ 1,50 m au-dessus de lui, le rebord du pont du Gaillard. Il s'agrippa au grillage de fer défendant un hublot et de l'autre main empoigna un des deux montants de la rambarde du Gaillard. D'un élan, il fut sur le Gaillard et courut se dissimuler devant le guindeau. De là, son regard embrassa tout le petit navire. Il vit que le pont était désert. Mais, ayant prêté l'oreille, il perçut un faible murmure qu'il identifia aussitôt des ronflements. Il dut attendre plusieurs minutes que ses hommes le rejoignissent. À leur tête, il se dirigea vers l'écoutille de chêne qui s'ouvrait derrière le guindeau. Elle était fermée à cause de la température. De chaque côté de la porte, des barres de bois carrées, longues de 2 mètres et grosses comme le bras, étaient placés, debout, dans des râteliers, contre la paroi. C'étaient les barres servant à faire tourner le cabestan. Fernau en prit une et fit comprendre à ses hommes de l'imiter. Puis, avançant la main, il tourna le bouton de cuivre de la porte de l'écoutille. Mais il arrêta son geste. Vers l'arrière, plusieurs détonations retentissaient. Watson et ses deux hommes venaient d'engager la bataille. « Vous, restez là, et ne laissez monter personne sans lui casser la tête, » dit-il à un de ses deux compagnons. « Avant tout, il faut voir ce qui se passe derrière. Venez, Jim !»« Compris, » fit le marin à qui le Canadien venait de confier la surveillance de l'écoutille. « Le premier qui monte sa dent des têtes, je lui fends comme un citron. » Fernau, sans répondre, s'élança vers l'arrière, suivi de Jim. Entre le grand mât et le couronnement, se trouvait un petit rouffle d'acajou. Fernau et son compagnon, l'ayant dépossé, purent voir Watson et un de ses hommes acculés au bastingage et qui se défendaient désespérément contre une demi-douzaine de robustes gaillards armés de revolvers et de gaffes. Parmi eux, Fernau, malgré l'obscurité, reconnut le gigantesque Stein. Il ressentit un immense soulagement. La vue de Stein produisit sur lui l'effet de la loque rouge que présente le matador au taureau. Il se souvint soudain de toutes ses souffrances. Il revit en pensée Margaret Drake dans l'ignoble prison des femmes d'Aniouchkin, et maintenant étendue mourante dans la neige. Ce Stein avait aidé à perpétrer toutes ces infamies, et il était là, son revolver au poing, qui glapissait en un anglais matiné d'accent allemand. « Rendez-vous, rascal, ou vous êtes mort !»« Mais c'est toi qui es mort, canaille !» gronda Fernau en se ruant vers Stein et ses bandits. Il leva sa barre de cabestan et de toutes ses forces l'abattit sur l'ancien second de l'Adler. Stein, qui s'était retourné, esquiva le coup en se jetant de côté. Suivi d'un de ses acolytes qui reçut le choc de la lourde barre de bois, il tomba à la tête en bouillie, sans même pousser un cri. Fernau, déjà, relevait sa barre et frappait à tour de bras. Deux des pirates s'affaissèrent, touchés à mort. Un quatrième, la colonne vertébrale brisée par la barre de Jim, s'écroula sur le corps de ses camarades. Le cinquième et dernier s'enfuit en hurlant. « Ne le laissez pas échapper, Jim !» hurla Watson, frémissant. Mais des clameurs coururent sa voix. Stein prit entre le bastingage et Fernau, et voyant la mort devant lui, car il venait de tirer la dernière balle de son revolver, venait de se jeter à genoux et les mains levées aboyait « Grâce, grâce, je vous livre Chrysler si vous m'épargnez !» Le bras de Fernot retomba sans frapper. « Liez-lui les mains, monsieur Watson, » dit-il au capitaine du Ghost. « Et solide, eh ? Ne craignez rien, deux tours morts et trois demi-clés. Ils sont mieux amarrés qu'en transatlantique, » affirma Watson, qui, étant allé couper un bout de corde logé le long du grand mât, ligota étroitement le misérable. « Laissez un homme pour le garder, finissons-en, monsieur Watson, » fit Fernot. « Il m'a reconnu, à ce que je vois. Nous verrons tout à l'heure à nous arranger avec lui. « Et celui-là, il est mort ?» acheva le Canadien en désignant un des marins du Ghost qui gisait inanimé sur le pont. « Oui, il y avait un factionnaire derrière lui et que nous n'avions pu voir. Il était caché par le roufle. Il nous vit arriver et prévint Stein. Aussi, à peine eut-nous escaladé le bastingage, que Stein et ses coquins, réveillés, se jetèrent sur nous. Heureusement que l'obscurité était complète. Ils ne visèrent pas bien, et à leur première décharge, pourtant, ce pauvre Kahn fut tué du coup. Une balle dans la tête, on meurt partout. Poor old Cap, allons. » Les quatre hommes, Carl Jim ayant rejoint et tué son pirate était revenu, s'élancèrent vers l'avant du schooner. Ils retrouvèrent le marin que Fernot avait laissé devant l'écoutille et qui déclara que rien n'avait bougé. Évidemment, les marins du Lynx dormaient profondément. Peut-être même étaient-ils ivres. « Il faut nous procurer un fanal et descendre voir ce qui se passe en bas, » déclara Fernot. « Il doit y en avoir dans la cuisine. »« Hobbs, va en chercher un, » ordonna Watson. Le matelot ainsi désigné s'élança vers la petite cabane fixée sur le pont entre le grand mât et le mât de misaine. Il en revint presque aussitôt avec une lanterne dont les verres, noirs de suie, laissaient à peine distinguer la flamme de la lampe à huile qu'ils abritaient. Fernot la prit et, ayant en main le propre revolver de Stein, qu'il avait rechargé, fit ouvrir la porte de l'écoutille par un des marins du Ghost. Il vit devant lui une étroite échelle de bois aux marches recouvertes de plaques de caoutchouc pour éviter les glissades et dont l'obscurité ambiante empêchait de voir l'extrémité inférieure. « Suivez-moi !» souffla Fernot à ses compagnons. Il descendit les degrés et arriva devant une porte fermée qu'il ouvrit. Il n'eut plus besoin de sa lanterne car il distingua un réduit étroit de forme triangulaire éclairé par une grosse lampe à pétrole suspendue au plafond et dont les parois supportaient des couchettes superposées par deux. Il y avait 8 couchettes en tout, dont 4 étaient occupées. « Hands up !» ordonna Fernand d'une voix forte. Les dormeurs, réveillés en sursaut, virent le Canadien debout, revolver au poing, et derrière lui Watson et les deux marins du Ghost également bien armés. D'un seul mouvement, ils jaillirent de leur couchette et levèrent les bras. Watson tint à les ligoter lui-même, l'un après l'autre, poignets et chevilles, pour plus de sûreté. Les prisonniers furent laissés à la garde de Hobbs, et Watson et Fernot et Jim remontèrent sur le pont et fouillèrent ensuite le navire. Le chef mécanicien Furkheim fut découvert caché dans l'armoire de sa cabine. Le maigre Poméranien avait entendu les détonations, et comme le courage n'était pas sa qualité dominante, il était allé se dissimuler dans une armoire. Il y fut cueilli sans peine et faillit s'évanouir en reconnaissant Fernot, qu'il croyait noyé. En moins d'une heure, tout fut fini. Les deux autres mécaniciens furent également faits prisonniers. Fernot fit monter tous les captifs sur le pont. Ils étaient 8 en tout. Stein, Furkheim, le second et le troisième mécanicien et 4 matelots, et appartenaient tous à l'ancien équipage de l'Adler. Fernand se chargea de les surveiller pendant que Watson et ses hommes allaient changer leurs vêtements trempés et glacés contre d'autres secs qu'ils prirent au hasard dans les cabines. Le Canadien, lui, dédaigna ce réconfort. Il n'avait qu'une hâte, aller chercher Margaret Drake et son père. Il laissa Watson et Hobbs à la garde des prisonniers, et en compagnie de Jim et de Turtle, les deux autres marins du Ghost, descendit dans la baleinière du Lynx qui s'éloigna aussitôt vers la terre. Les deux marins du Ghost, enthousiasmés par la vaillance qu'avait montrée Ferneau, ne demandaient qu'à lui faire plaisir. Tout comme Watson, ils comprenaient le vrai motif de la hâte du Canadien. Aussi ramèrent-ils comme des enragés. En quelques instants, la baleinière eut atteint le fond de la baie et fut achouée sur le sable. Ferneau et ses compagnons, au pas de course, escaladèrent la falaise et s'élancèrent vers le feu dont ils apercevaient les lueurs. Un cri de femme les accueillit. Margaret Drake, dressée, avait reconnu Ferneau. Elle le regarda s'approcher immobile, ses deux yeux bleus largement ouverts, sa face extrêmement pâle. « All is well !» cria le Canadien. « Le navire est à nous. Stein est prisonnier. Il n'y a plus qu'à aller à bord. Nous avons apporté des haches. »«
Des haches ?»
balbutia Margaret Drake, ne comprenant pas. « Oui !» expliqua Ferneau. « Pour couper des sapins et faire une civière. » La précaution était opportune, car ni Margaret Drake ni son père, si grande que fût leur joie, ne pouvaient marcher. Malgré leurs protestations, Ferneau et les marins du Ghost confectionnèrent une large civière dans laquelle le père et la fille, enveloppés dans de chaudes couvertures apportées par le prévoyant canadien, prirent place. Ferneau, par prudence, fit éteindre le feu en le recouvrant avec de la neige. Puis le petit cortège, lentement, se dirigea vers la baie de Sourbinsk. Le jour était proche lorsque Francis Drake et sa fille arrivèrent sur le pont du Lynx. Watson attendait à la coupée. Il semblait agité. « Je veux vous parler, monsieur Ferneau, » dit-il en attirant le Canadien à lui.